Bulletin d'information.
Les infos. Vos infos d'ici.
On vous dit bonjour. Nous sommes mardi le 7 janvier 2025. C'est plus facile à dire que lorsqu'on doit l'écrire. Bonjour, Félix-Antoine.
C'est vrai, ça, hein?
Ah, hier, je te pitonnais ça à 2024.
Voyons, le 5 on change est plus loin
d'année.
Que le 4, un peu. Là,
ah, oui, plus loin.
Je sais, j'ai fait la même chose hier. C'est toujours, ça prend une coupe, quoi, une semaine ou deux avant de s'habituer, là.
Ouais, dans le temps des chèques, où on faisait des chèques, là, on fallait refaire ça. Mais là, ça existe presque plus, ça, maintenant. Félix-Antoine, à la barre de l'information, bulletin de 9 heures, on commence en parlant de l'Outaouais qui embauche plus de personnels médicaux qu'elle n'en perdrait, selon CISO.
Oui, c'est exact. La situation de la rétention du personnel médical semble s'améliorer en Outaouais. Selon le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux d'Outaouais, Marc Bilodeau, la région, dans sa globalité, embauche plus de personnel dans le secteur médical qu'elle n'en perd. Mais dans la vallée de la Gatineau, le tableau est un peu plus nuancé.
Ici, dans la vallée, c'est pas aussi positif que ça. La tendance se renverse progressivement, mais on est encore en bilan négatif. Depuis les 8 premiers mois, en fait, de l'année 2024-2025, on a embauché 7 personnes de moins que ceux qui sont partis. Mais ce chiffre-là est en diminution, parce qu'on était dans les 40 l'année dernière.
Une situation en amélioration, certes, mais qui se heurte à un nouveau défi. En effet, Québec a annoncé en novembre dernier des coupures de l'ordre de 90 millions de dollars dans le secteur de la santé en Outaouais. Le gouvernement provincial avait beaucoup investi dans le secteur, surtout pendant la pandémie, et selon le PDG du CIS, certains de ces fonds n'ont pas été bien gérés.
Quand je me compare avec d'autres établissements dans le réseau, je vois clairement qu'il y a des secteurs où est-ce que le retour sur l'investissement n'est pas là, comparativement à d'autres régions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des ressources, une utilisation non optimale des ressources. Puis ça, ça veut dire qu'il faut que je regagne une certaine rigueur de gestion pour réussir à régler ça. Fait qu'il y a une partie de ces 90 millions-là qu'on va aller chercher là, en optimisation.
Marc Bilodeau a affirmé travailler pour inverser la tendance. Et l'un des volets dans le long terme auquel il porte une grande importance, c'est la formation du futur personnel médical.
Je travaille avec d'autres programmes de formation, avec le cégep de l'Outaouais, avec le cégep Héritage, avec l'UCO, avec les centres de formation professionnelle, de façon à voir où sont nos autres déficits. Là. Quel genre de professionnels on aurait besoin absolument puis qu'on ne forme pas actuellement? Ou dans les professionnels qu'on forme, lesquels les cohortes sont juste pas assez grosses pour répondre aux besoins, comme les soins infirmiers, par exemple? Puis comment est-ce qu'on peut augmenter ces cohortes-là? Mais évidemment, ça nécessite des investissements additionnels des ministères de l'enseignement et de l'enseignement supérieur.
Maintenant, parlons d'itinérance autochtone. Le ministre Lafrenière, conscient des enjeux à Maniwaki.
Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits du Québec, dit être bien au fait des enjeux en lien avec l'itinérance à Maniwaki. De passage dans la région le mois dernier, Yann Lafrenière a discuté du manque de logement dans la communauté de Lac-Barrière et des défis qui en découlent. Plusieurs Autochtones quittent la communauté et se retrouvent parfois sans ressources, ce qui contribue au phénomène de l'itinérance, comme le mentionne le ministre Lafrenière.
Et c'est clair que présentement, on a une situation d'itinérance ici, que justement les dirigeants de Lac-Barrière qui disaient « ce sont plusieurs membres de nos communautés parce qu'il manque de logement dans une communauté comme Lac-Barrière ». On parle présentement de certaines communautés, puis Lac-Barrière, c'est dans les pires pour ça, qui vivent jusqu'à 12 à 14 personnes par maison. Donc, les gens quittent la communauté sans ressources.
Ancien policier, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits connaît bien l'équipe mixte d'intervention policiers et intervenants communautaires et soutient qu'il s'agit d'une réponse plus adaptée à la réalité du milieu.
Je comprends bien comment ça fonctionne parce que le danger avec nos policiers patrouilleurs, que je dirais standards ou plus conventionnels, bien c'est d'un pendant, c'est-à-dire qu'on prend la personne itinérante, on la déplace ou on règle le problème temporairement, on ne trouve pas une solution. Avec les MIPIC, avec des travailleurs sociaux, c'est de trouver des solutions pour ces gens-là. Mais ça rend des solutions à plus long terme de ça. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler avec Lac-Barrière parce que les gens originent de là-bas.
Malgré la présence de ressources comme le Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, la Maison Amitié de la Haute-Gatineau et la Halte Refuge de Suicide des Tours, le ministre estime, sans les nommer, que des solutions à long terme doivent être mises en place afin de s'attaquer à la base de cet enjeu. D'ailleurs, Yann Lafrenière a abordé la question de l'électrification de Lac-Barrière qui dépend actuellement de génératrices pour alimenter la communauté. Comme le système atteint sa pleine capacité, l'ajout de résidences devient pratiquement impossible sans de nouvelles sources d'électricité. Il avance que des discussions sont en cours afin de trouver une solution permettant d'alimenter donc de nouvelles résidences.
Et parlons d'une SQDC à Gracefield en 2025?
Possiblement, le maire de Gracefield espère que sa ville obtiendra bientôt une succursale de la Société québécoise du cannabis sur son territoire. Les discussions entre la ville et la SQDC laissent croire au maire Caron que cette demande en fait pourrait se matérialiser en 2025. Mathieu Caron revient sur les raisons qui ont poussé le conseil municipal à demander une succursale à Gracefield.
Les gens en consomment. On veut enrayer le marché au noir. On veut qu'il y ait des produits qui sont de qualité contrôlée sur le marché. Quand ils ont rouvert la succursale du côté de Mont-Laurier, La dernière opération cisaille pour les plantations illégales, ils n'en ont trouvé aucune. Fait qu'on a vu un effet bénéfique, là. Ça a apporté du bon. On veut avoir la même chose en Haute-Gatineau. On pense qu'on le mérite. On y a le droit.
Une rencontre avait eu lieu en septembre dernier entre le maire de Gracefield, la préfète de la vallée de la Gatineau et des dirigeants de la SQDC. Cette visite avait d'ailleurs permis d'identifier certains locaux pouvant potentiellement accueillir un point de vente.
On a rencontré des propriétaires de ces locaux-là. Donc, il y a un local qui est vraiment très bien situé, de la bonne grosseur, dans notre, un petit peu notre centre d'achat à Gracefield. Là. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour eux. J'ai pas de développement vraiment... Ça va être fait 2025, mais j'ai bonne espérance que ça pourrait arriver et à cet endroit-là, j'aimerais bien ça.
La SQDC prévoit offrir environ 350 produits, soit environ la moitié moins que dans les grandes succursales, au grand bonheur du maire Caron.
Eh bien voilà, on complète le premier bulletin ensemble. On se retrouve à 9h30 et parlons du bulletin 10.
Oui, effectivement, hein? C'est un rendez-vous.
Et il me semble que tu me dis tantôt dans le corridor qu'il y a une petite baisse au niveau des permis, mais là, on donnera plus de détails.
Oui, bien c'est ça, on va parler des permis de conduire, entre autres, à 10h.
OK, merci, bye.